Les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 27 septembre. La prison à vie pour l'Australien qui a commis les attentats de Christchurch le 15 mars 2019 en Nouvelle-Zélande. Il ne sortira jamais de prison. Aux États-Unis, la tension monte après la mort d'un jeune homme noir sous les balles de la police. Et en France, le gouvernement vient de dévoiler son protocole sanitaire pour la rentrée des classes qui aura lieu mardi prochain. C'est donc la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le tueur des mosquées, cet Australien extrémiste qui, le 15 mars 2019, avait tué 51 personnes dans deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Une peine exceptionnelle pour une affaire exceptionnelle également. Jamais la justice néo-zélandaise n'avait condamné un homme à la perpétuité sans possibilité de remise de peine. Il faut dire que les attentats de Christchurch représentent l'attaque la plus meurtrière dans l'histoire de la Nouvelle-Zélande. En Australie, le coronavirus perd du terrain dans le Victoria qui enregistre aujourd'hui seulement, si j'ose dire, 113 nouveaux cas, mais en revanche quand même 23 décès supplémentaires. Bien que ce soit l'une des journées les plus meurtrières en Australie depuis le début de la pandémie, on note malgré tout un recul assez marqué du nombre de nouveaux cas, ce qui semble indiquer que le reconfinement commence à porter ses fruits. Mais il faut malgré tout bien sûr rester prudent. Et aujourd'hui d'ailleurs, plusieurs organisations médicales alertent sur le risque posé par les systèmes de ventilation dans les hôpitaux. Ils appellent à les vérifier pour s'assurer qu'ils sont bien adaptés à ce virus, alors que plus de 600 personnels soignants dans le Victoria ont été placés en isolation après l'apparition d'un nouveau foyer d'épidémie au Frankston Hospital, où au moins 58 personnes ont été infectées. Le gouvernement du Victoria s'est pour sa part engagé à faire une analyse fine des lieux pour détecter d'éventuelles microparticules du virus dans les établissements hospitaliers. Dans le Queensland aussi, deux nouveaux cas détectés. L'un des deux, c'est une personne de retour de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui se trouve actuellement dans un hôtel en quarantaine. L'autre cas, en revanche, est plus inquiétant puisqu'il s'agit d'un homme qui forme des agents pénitentiaires. Par mesure de précaution, 14 de ses gardes en formation, mais aussi 11 collègues de cet homme ont été placés à l'isolement. L'origine de cette contamination n'est pour l'instant pas encore précisément déterminée, mais cet homme, qui a été donc testé positif, vit et travaille à proximité de ce centre de détention pour mineurs où d'autres cas de coronavirus ont été détectés il y a quelques jours. C'est ce qu'a précisé Stephen Miles, représentant du gouvernement du Queensland.
While we can't yet identify a clear link with the Brisbane Youth Detention Centre, this individual lives in Forest Lake, works in Wacol, both locations where other cases from the Brisbane Youth Detention Centre cluster are known to live and or work.
Aucune poursuite ne sera engagée contre le policier impliqué dans la mort en détention d'une femme aborigène dans l'état du Victoria, cette femme qui s'appelait Tanya Day. Cette femme, elle avait 55 ans, elle est morte à l'hôpital 2 semaines après avoir chuté à plusieurs reprises et s'être cognée la tête alors qu'elle se trouvait dans un commissariat. Elle avait été arrêtée quelques heures plus tôt car elle était en état d'ébriété dans un train. Sa famille est très en colère contre cette décision. Le chef de la police, Shane Patton, a pour sa part reconnu que la police aurait en la matière pu faire mieux.
In the inquest, the evidence given that the checks could have been better. The door wasn't opened into the cell to conduct the checks, which should have occurred. So we could have done better.
Et rappelons que les aborigènes sont surreprésentés dans les prisons australiennes puisqu'ils représentent 30% de la population carcérale pour seulement 3% de la population australienne. Et ce matin, Scott Morrison a annoncé une nouvelle loi qui permettrait à l'État fédéral d'exercer un contrôle plus accru sur les accords passés entre les États australiens et certains pays étrangers, des pouvoirs renforcés donc qui pourraient aller même jusqu'à aller à l'annulation pure et simple d'un accord passé, comme par exemple celui qui a été signé entre l'État du Victoria et la Chine dans le cadre de son projet de nouvelle route de la soie, projet qui inquiète fortement la coalition au pouvoir. Maryse Payne, la ministre des Affaires étrangères, a elle annoncé le lancement d'un audit qui va viser l'ensemble des accords déjà en cours et déjà signés.
When you've got 135 just in open source, there will be many more that we are unable to identify until we do the stock take, or states and territories return the results of the stock take. So as we pursue this process, I think Australians will be reassured that undertakings made by state and territory governments are focused on being in Australia's national interest as part of their state and territory.
En Irlande, le scandale aura fini par coûter son poste à Phil Hogan. L'ex-commissaire européen au commerce avait participé quelques jours plus tôt à un dîner dans un club de golf, et ce, en dépit des mesures actuellement en place qui interdisent ce type de rassemblement. Les excuses qu'il a présentées n'auront pas suffi, il a donc été poussé à la démission. Un couac qui, au-delà de sa personne, affaiblit le camp des pro-européens en Irlande. On va écouter à ce sujet l'analyse de Patrick Martin-Génier. Il est professeur à l'école des affaires publiques à Sciences Po.
Les négociations n'avancent pas. Michel Barnier n'est pas parvenu cet été à faire avancer les négociations. Et nous venons d'apprendre qu'Angela Merkel a décidé de rayer de l'ordre du jour de la réunion des ambassadeurs de l'Union européenne le 2 septembre le sujet du Brexit, car les Britanniques manifestement ne veulent pas avancer. Phil Hogan était quelqu'un qui connaissait bien également ce problème, car la principale difficulté, c'est, vous savez, les accords du vendredi saint, il ne doit pas y avoir de contrôle frontalier entre l'Irlande et la République d'Irlande, mais jusqu'à présent, le Premier ministre Boris Johnson a refusé de dire quel type de contrôle douanier il ferait entre l'Angleterre et l'Irlande du Nord. Et c'est vrai que, eh bien, on pouvait compter sur l'expertise de Phil Hogan pour donner son opinion et surtout, effectivement, en parler avec Michel Barnier qui négocie au nom de la Commission européenne. Donc c'est également un coup dur pour le Brexit.
Et la tension continue de monter en mer Méditerranée où la Turquie, qui mène des opérations de prospection gazière dans une zone maritime qui est revendiquée par la Grèce. Le président turc Recep Tayyip Erdogan ne compte pour sa part rien lâcher. On fait le point avec Anne Andloer, qui est correspondante à Istanbul pour Radio France Internationale.
Recep Tayyip Erdogan continue de souffler le chaud et le froid en Méditerranée orientale avec un principe clair, répété à chacun de ses discours, c'est-à-dire chaque jour. La Turquie ne cédera pas, elle ne retirera pas ses bateaux de recherche d'hydrocarbures et les navires militaires qui les escortent des zones maritimes revendiquées par la Grèce. Les mots sont forts, faits pour pousser Athènes et ses alliés à reculer, autrement dit à négocier.
Nous ne ferons absolument aucune concession sur ce qui nous appartient. Nous invitons nos interlocuteurs à se reprendre et à se garder de toute erreur qui ouvrirait la voie à leur ruine.
Recep Tayyip Erdogan va même un peu plus loin en mettant ses rivaux au défi.
Si nous disons que nous allons faire quelque chose, nous le ferons, quoi qu'il nous en coûte. Si certains sont prêts à payer le prix pour nous affronter, qu'ils viennent. Sinon, qu'ils s'écartent de notre chemin et nous laissent gérer nos affaires.
En fait, les autorités turques veulent négocier avec la Grèce, probablement via une médiation européenne, car elles savent qu'elles n'ont aucun intérêt à ce que la crise dégénère et qu'un incident majeur se produise. Mais elles veulent entamer ces négociations sans préconditions grecques et en position de force, ou du moins donner cette image à leur opinion publique. Anne Andloer, Istanbul, RFI.
Et aux États-Unis, on se dirige vers une quatrième nuit de manifestations dans la petite ville de Kenosha. Ces manifestations qui font suite à une nouvelle bavure policière qui, celle-ci, a coûté la vie à un homme qui s'appelle Jacob Blake, abattu de 7 balles tirées dans le dos par la police. Dans cette petite bourgade, un couvre-feu a été instauré, mais les autorités craignent malgré tout des débordements. On va écouter le reportage de Romain Le Maresquier pour RFI.
Les images de la nuit de mercredi à jeudi laissent craindre le pire à Kenosha. Cette localité de l'État du Wisconsin a été le théâtre de manifestations émaillées de violences dans la nuit de mardi à mercredi. Les manifestants qui exigent que justice soit faite et que les coupables soient condamnés ont dû faire face à ce que le New York Times qualifie de milices armées, des gens descendus dans les rues pour soi-disant éviter des actes de vandalisme. Deux personnes ont été tuées par balle et une autre grièvement blessée, suite, semble-t-il, à une confrontation entre plusieurs centaines de manifestants et un groupe de gens dirigeant armé qui ferait partie de ces milices. Les auteurs des coups de feu sont en fuite et une enquête a été ouverte. Mais la tension est à son comble, surtout depuis que la famille de Jacob Blake ait confirmé que ce jeune père de 29 ans resterait paralysé. Et il n'y a pas qu'à Kenosha où la situation est tendue. À Minneapolis, la ville où George Floyd est mort le 25 mai dernier suite à une autre bavure policière, la colère gagne aussi du terrain. La nuit prochaine, et malgré le couvre-feu qui a été imposé à Kenosha, les autorités s'attendent encore à des manifestations, et ce malgré l'appel au calme lancé par la mère de Jacob Blake.
Au large de l'île Maurice, les premières victimes de la marée noire qui menace cette île très touristique ont affleuré sur les côtes. On a retrouvé effectivement les carcasses d'au moins 14 dauphins échoués sur le littoral il y a quelques heures. Dans cette affaire, Greenpeace appelle à l'ouverture d'une enquête. En France, la rentrée scolaire, c'est mardi prochain. Et hier, le gouvernement a dévoilé son protocole sanitaire qui était attendu par les parents, mais aussi les professeurs depuis des semaines. Le port du masque sera donc obligatoire dès l'âge de 11 ans pour les élèves, mais aussi pour les enseignants, et ce, dans toutes les écoles. On fait un point complet avec Laurence Théo de RFI.
Principale nouveauté, tous les adultes et les enfants à partir de 11 ans devront porter le masque en toutes circonstances. Les enseignants de maternelle qui n'étaient pas concernés dans la première mouture du protocole devront donc se couvrir le visage, y compris en présence des enfants. En dehors de cet ajustement, ce sont les règles déjà connues, lavage des mains, distanciation physique, qui s'appliquent partout pour permettre aux élèves de revenir en classe. En ce qui concerne la cantine ou la récréation, le ministre de l'Éducation nationale recommande entre autres d'éviter le brassage des élèves. Jean-Michel Blanquer a donc fixé les grandes lignes, mais si la situation sanitaire se dégrade dans un territoire donné, il y aura des adaptations. Le préfet, l'agence régionale de santé et le recteur d'académie pourront décider de mesures plus strictes, pouvant aller jusqu'à la fermeture des établissements. Mais à ce stade, il n'en est pas question. La préoccupation du ministre est que tous les élèves retournent en classe. C'est une nécessité. Et sur ce point, enseignants et politiques sont unanimes. Le risque de décrochage scolaire est à son maximum après les mois de confinement, avec des conséquences très lourdes pour les élèves les plus défavorisés.
Et pour conclure ce bulletin, un point maintenant sur la météo du jour en Australie. 25 degrés à Perth, où il fait grand soleil. Soleil aussi à Adélaïde, où il fait 17 degrés. 19 degrés à Melbourne, qui en revanche se trouve sous les nuages. Grand soleil à Sydney avec 19 degrés, 23 degrés à Brisbane et jusqu'à 36 degrés à Darwin, où comme presque toujours, il fait très très beau aujourd'hui.